Europe 1.
Les surprises, t'es peut-être pas au bout.
16h, 18h, Culture Culte.
Asseyez-vous tranquillement, nous avons le contrôle total de l'émission.
Carl Zéro.
Mes chers amis, mes bien chers compatriotes, chères auditrices, chers auditeurs, chers vacanciers, chers travailleurs, bienvenue dans Culture Culte et bonjour Anissa.
Bonjour
Carl. Vous l'avez compris, nous allons célébrer le culte aujourd'hui en compagnie d'un grand témoin. Devenu culte lui-même, dont la carrière, culte évidemment, s'est nourrie de multiples rencontres et influences de toutes sortes, toutes plus cultes les unes que les autres. Musique, cinéma, radio, télé et même politique, nous allons les passer en revue ensemble. Merci Benabar d'être à nos côtés aujourd'hui pour ces 2 heures de pur culte.
Merci de me recevoir.
Alors aujourd'hui, Benabar, c'est ta vie, en quelque sorte, que tu vas entendre défiler au travers de tes choix. Puisqu'aujourd'hui, c'est toi qui es nommé grand maître du culte. Mais avant toute chose, pour toi, le culte, c'est quoi ?
Le culte, c'est quelque chose d'ailleurs que je ne ressens pas forcément. Je sais que c'est un mot très, très usité. C'est un truc qui a marqué les esprits et qu'on ressort un peu à toutes les sauces,
ouais,
d'ailleurs.
Ouais.
Donc moi, j'ai pas forcément cette façon-là pyramidale de voir les choses, avec des trucs que je situe aux autres. Moi, je suis assez... je serais plutôt un puzzle de milliards de trucs pour faire l'image de ce qui fait ma culture et les choses que j'aime bien.
Alors, pour préciser ta vision du culte, on va la tester avec ce petit quiz culte, pas culte.
D'accord.
En fait, je te dis des noms et tu me réponds culte ou pas culte.
Okay.
Georges Marchais.
Culte.
Charles Pasqua.
Bah, un peu culte. Oui, un peu culte.
Édouard Philippe.
Pas encore.
Emmanuel Macron.
Pas encore non plus.
Brigitte Macron.
Un peu culte.
Ah,
oui.
Il est plus culte que son mari.
Oui.
Alain Delon.
Bah ouais.
Mireille Darc.
Ouais.
Daniel Auteuil.
Bon, en passe de le devenir. Ouais.
En passe. Emmanuel Béart.
Ah non, pas encore.
Pas
jeune.
Encore. Gérard Majax.
Gérard Majax, c'est oui, j'imagine, pour les amateurs de magie.
Casimir,
ouais, moi j'ai pas ce côté régressif, mais ça doit l'être pour certains.
Frédéric François,
non.
Claude
non.
François.
Bah ouais, forcément.
Jean-Pierre François.
Non plus.
François Valéry.
Pas encore.
François.
Presque, ouais, François.
Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on t'a demandé la chanson que tu te mets à fond pour te motiver, que tu écoutes avant... un moment important pour te donner du corps au ventre, que ce soit, je sais pas, un concert, un rendez-vous, un nouveau contrat avec une maison de 10, j'en sais rien, ou une émission comme Culture Culte, tu as dit sans hésiter, celle-ci, La Vie Quoi de Kali. On écoute.
Carl Zéro sur Europe 1.
Il faut me dire, on doit se dire, tu dois me dire, est-ce que tu es heureux? Alors ça fait quoi? Raconte-moi, est-ce que c'est bon d'être enfant amoureux? Toutes ces nuits, t'es mort mille fois pour vivre un jour. La vie quoi? La vie quoi? Il faut me dire, on doit se dire, tu dois me dire. Est-ce que tu as pleuré? Alors ça fait quoi? Dis-moi, raconte-moi, parle-moi du baiser. De la pluie qui mitraille, du ciel qui s'effondre sur votre corps enflammé.
La vie quoi de Kali, un titre sorti en 2013. 15, qui est la chanson que Benabar se met à fond tous les jours où il a un rendez-vous important. C'est la chanson qui le motive. C'est son premier choix dans Culture Culte.
Et pour quelle raison ? À cause du texte ou à cause de la rythmique effrénée de ce titre ?
Bah, l'ensemble, il y a quelque chose d'adolescent qui se dégage de cette chanson très solaire, très entraînant.
Donc,
comme
globalement, il y a quelque chose d'adolescent qui se dégage de Kali, non ?
Oui, en plus, oui, c'est cette espèce de force avec une naïveté.
Il a 16 ans pour toujours, ce garçon.
Un petit peu, ouais. Hein ? Physiquement, de moins en moins, je l'ai vu dernièrement. À 4h du matin, crois-moi, il n'a pas 16 ans. Il a 116 ans.
Europe 1. Culture Culte, c'est votre émission de l'été, tous les samedis, tous les dimanches de 16h à 18h, Carl Zéro et son invité vous dévoilent tout ce qui est culte. Pour vous, une émission pleine de souvenirs. Alors quel est le cinéma culte de Benabar ? Vous allez le découvrir dans un instant. Vous écoutez Carl Zéro sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Carl, vous recevez Benabar. Benabar,
oui,
qui nous dévoile son panthéon culte. Exactement. Alors, quel est le film de Benabar ?
Moteur ! Un deuxième, un troisième.
Film culte.
Cooper !
Comme tous nos invités, tout au long de l'été, tu as été soumis au questionnaire culte. Et quand on t'a dit quel est ton film culte, le meilleur film que tu as vu de ta vie, tu as dit Down by Law de Jim Jarmusch, 86.
Mais j'aurais pu le dire aussi Vincent, François, Paul et les autres, je l'ai dit souvent.
Ah, ça, parce tu l'as dit après, c'est là,
ouais,
tu es en train de trahir la suite de l'émission.
Ah oui, c'est pour ça.
C'est ton dialogue culte. Down by Law, oui. Un extrait sonore de la musique, c'est Jockey Full of Bourbon by Tom Waits. C'est ça le résumé de ce film.
Alors ça se passe dans le Bayou, un monde de malchance et d'ennui pour Jack et Zach. Ce sont deux garçons paumés qui se retrouvent tous les deux en prison. Là en prison, ils vont rencontrer Roberto. Alors lui, Roberto, c'est autre chose. Lui, il est plein d'entrain.
Bah, c'est Roberto Benigni.
Bah, c'est Roberto
Benigni.
Il joue
son propre rôle.
Et puis surtout, il a l'entrain que les autres n'ont pas. Surtout, c'est ça qui est impressionnant. Et il va les aider à s'évader.
Mais alors, qu'est-ce que tu as trouvé à ce film de si particulier ? Le côté chic, le côté noir et blanc, le côté...
À l'époque, c'était pas encore chic. Il y avait pas ce côté chic qu'a Jarmusch depuis. Je l'avais vu, je crois, en 87, quand j'étais aux États-Unis. J'ai passé presque un an aux États-Unis à la fin de mes études. Et donc, je baignais un peu dans cette atmosphère-là. Et puis, ça a été un choc pour moi, la musique de Tom Waits, qui est restée une référence. Le noir et blanc de Jarmusch, Benigni, John Lurie, qui fait du jazz aussi. Enfin, il y a eu un espèce de choc de fin d'adolescence. Et je m'en suis souvenu dernièrement. C'est marrant, j'avais un peu occulté ce film-là. Et c'est dernièrement, j'y repensais, je ne sais pas pourquoi.
Mais toi, tu as fait deux courts-métrages. Pourquoi tu n'es jamais devenu réalisateur de cinéma ? Puisque tu es scénariste, tout le monde se souvient que tu faisais les scénars, enfin, certains scénars de H, la série avec Jamel. Mais pourquoi tu n'es jamais passé derrière la caméra, vraiment ?
Parce que c'était pas ma vocation, je pense. D'une part, je n'en ai pas les compétences. C'est-à-dire que... Il y a la façon de tourner un film, ça c'est comme chanter une chanson, tout le monde peut le faire, quoi, tu vois, mais après faut le faire bien, faut être inspiré, faut avoir ce talent-là, y consacrer un temps inouï, puis avoir des compétences un peu cachées et souterraines, je pense, pour bien faire ce métier de réalisateur.
Parce que tes chansons souvent sont scénarisées, il y a un début, un milieu, une fin, c'est très cinématographique toujours.
Oui, donc... c'est le côté scénariste, je l'ai gardé, je pense, plus que le côté réalisateur. Et puis j'ai choisi une autre voie, en fait, ça s'est fait aussi comme ça.
Oui, mais tu n'as que 50 ans, la vie maintenant, tu sais, on vit 150 ans, donc la vie est très longue, donc tu peux le faire, non ?
Écoute, je consacrerai mon centenaire à ça. Quoi.
Ou du documentaire comme Jim Jarmusch, tu sais qu'il a fait un film sur les Stooges.
Oui.
Et donc on va écouter Iggy Pop, c'est Lust for Life qui figure dans ce film.
film. WGTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. And I would lust for life.
Lust for Life, Iggy Pop sur Europe 1, une musique qui fait partie du documentaire Gimme Danger qui a été réalisé par Jim Jarmusch, puisque Jim Jarmusch, c'est le réalisateur qu'a choisi Benabar aujourd'hui pour évoquer son film culte. Et ce documentaire, il est sorti le 1er février 2016. Vous pouvez le revoir partout et notamment sur Internet.
C'est The Stooges et c'est ce déferlement de décibels, ces rives d'acier, c'est ton univers ou pas du tout?
Non, pas du tout. Moi, je suis un peu passé à côté du rock comme ça.
Peut-être parce que tu es né en 69, année érotique, et parce que cette musique-là, c'est plus fin 70, 79,
oui, c'est ça. Mais même par la suite, en fait, j'ai fait un peu l'impasse sur le rock, sur le rap aussi. À tort probablement, hein, mais je suis rentré, moi c'est les paroles, les chansons à texte comme on dit, qui, donc je suis un peu rentré dedans.
Tu es un chanteur classique en réalité.
Oui, il y a quelque chose.
Tu es devenu un classique tout de suite, c'est très étrange.
Oui, j'avais des goûts. C'est pour les textes, c'est pour ça que je regrette un peu de pas connaître mieux le rap, parce que ils défendent vraiment le texte, notamment la nouvelle génération. Je pense qu'on n'a pas le temps de tout entendre, quoi, surtout quand on va au fond des trucs, quoi. Et moi je suis resté un peu sur la chanson dite française,
ouais,
variété,
ouais, enfin, qualité ça, France. Qualité France,
oui, ce
et c'est
petit
la
côté
même chose.
Un peu cocardier, c'est vrai. Ouais.
La même chose pour le cinéma, on va le découvrir dans un instant, Anissa.
Europe 1. En effet, car nous allons découvrir quel est le dialogue de film culte pour Benabar. Vous l'avez compris, hein, si vous nous avez écouté il y a quelques minutes, il en a déjà dévoilé le titre du film. Il est signé Claude Sauté et nous allons écouter ce dialogue dans un instant sur Europe 1. Culture culte, tous les samedis, tous les dimanches sur Europe 1, de 16h à 18h avec Carl Zéro et son invité. Aujourd'hui, Carl, vous recevez Benabar qui nous dit tout, qui dévoile ses souvenirs, ses madeleines de Proust.
Il est le grand maître de l'église culte aujourd'hui.
Exactement, et nous pénétrons dans ce temple du culte de Benabar avec son dialogue de film culte.
Mais qu'est-ce que c'est que cette matière?
C'est clonque.
N'approchez pas!
Dialogue de film culte.
On vantait ton classicisme légendaire, Benabar, et c'est en regardant donc Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sauté que tu ressens ta première grande émotion de cinéma et que tu te dis je deviendrai scénariste pour écrire aussi bien que Claude Sauté.
Ouais, Claude Sauté et Dabadi, qui comme de par hasard aussi écrit beaucoup de chansons, donc c'est vrai que je prétends pas du tout faire partie de cette lignée-là, mais en tout cas, ce sont des références centrales pour moi.
Tu fais partie de cette lignée-là, clairement, évidemment. Tu ne te rattaches pas à Iggy Pop, donc tu te rattaches forcément à la grande lignée française. Alors, ce que tu as choisi comme tirade, celle du gigot dans ce film, on écoute.
Ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'à s'arranger. Ou pour en avoir, ou pour s'en passer. Mais pas pour emmerder les autres, qu'est-ce que ça veut dire? S'adapter, ça signifie quoi? Ça signifie vivre avec son temps. Savoir bouger avec la société, comme François. Naturellement, une seule devise. Pour changer de vie, changer la vie.
Donc c'est étonnant, parce que d'habitude, on nous demande du Audiard. Et toi, tu nous demandes du Sauté. Donc c'est très différent, en réalité.
Il faut passer la suite, quand même.
Allez, on l'envoie.
Non, mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons abaissées jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde. Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Écoute, François, écoute.
Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un gros dimanche, petit gigot à la con! Merde!
T'as même l'impression que c'est pas écrit, qu'il improvise.
C'est impérial, hein, c'est impérial, hein, c'est magnifique.
C'est étonnant.
Piccoli, Reggiani, Yves Montand, Depardieu... entre autres autour de la table. Et moi, cette scène, c'est vrai que c'est une scène, pas que pour moi, culte, hein, parce que pour moi, c'est vraiment un classique. D'ailleurs, j'imagine que ça doit être étudié dans des écoles de théâtre. C'est une tirade définitive.
Claude Sauté, son talent, je crois, réside dans le fait qu'il utilise les gens exactement pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, il ne les fait pas jouer, il les fait être eux-mêmes, il les pousse à être le plus possible être eux-mêmes. C'est ça que tu aimes chez lui?
Oui. Il y a cette dimension-là, et puis il y a une autre dimension. Alors, je ne sais pas si c'est une théorie très personnelle, mais j'ai l'impression que dans ces films, il a retiré le rôle principal, le héros. Il n'y a que des deuxièmes rôles.
D'où le titre, Vincent, François,
ouais,
Paul et les autres.
Dans plusieurs de ces films, c'est toujours des gens un peu en fragilité, comme il disait, des personnages de Montand qui sont en difficulté, mais qui ne font pas d'actes héroïques, mais qui vivent vraiment. Et comme si il devait y avoir un Alain Delon, mais en fait qui n'a pas pu venir ce jour-là, quoi. Et donc il n'y a que les autres qui font la scène sans le héros qui a le pistolet qui part avec la jeune première.
Les films de bande comme ça, est-ce que c'est pas ce qu'essaye de faire aujourd'hui, de prendre la suite de Sauter, quoi, Cédric Clapiche ou Guillaume Canet?
Bah oui,
des films chorales, quoi.
Ouais, et puis la plupart des cinéastes quand même se réclament aussi de ce cinéma-là, qui est quand même un cinéma magnifique.
Alors je te propose Piccoli avec Romy Schneider dans la chanson d'Hélène. Ça, tu l'adores.
Ouais, ça c'est magnifique.
Ce soir, nous sommes septembre. Et j'ai fermé ma chambre, le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe comme
La chanson d'Hélène sur Europe 1. Vous aurez certainement reconnu la bande originale du film César et Rosalie, chantée par Romy Schneider et Michel Piccoli. Michel Piccoli qui est à l'affiche du film culte de Benabar aujourd'hui. Vincent, François, Paul et les autres, Karl.
Et à sa sortie en 1974, Benabar, le film, a été massacré par la critique, qui l'a jugé bourgeois. C'est étonnant quand même.
Ouais, bah non, c'est pas étonnant, hein, quand on connaît les critiques. C'est même assez logique, hein. Quand t'as une bonne critique, faut toujours t'inquiéter un petit peu.
Comme quoi, un film culte, souvent, commence par un désastre.
Europe 1. Jusqu'à 18h sur Europe 1, vous écoutez Karl Zéro et son invité aujourd'hui, Benabar, vous dévoile ses souvenirs, ses madeleines de Proust, son temple du culte. Alors, quel est le moment historique, le moment de téléculte pour Benabar? Vous allez le découvrir dans un instant.
Europe 1. Les mollets sont parfaitement épilés.
Les cale-pieds sont installés.
Et les chaînes bien huilées.
Le Tour de France, c'est 3 semaines d'adrénaline,
de ferveur et d'émotion,
sous l'œil expert de notre consultant Thomas Veuclair.
Tous les matins, un journal du Tour complet.
Il a une dizaine de secondes d'avance.
Suivi de l'étape et arrivé en direct.
Première victoire française sur ce Tour de France.
Tous les soirs, débriefing et perspectives.
Jusqu'au 28 juillet, le vélo fait sa star sur Europe 1.
Moustique, tic, ah, Aïe, ça pique!
Le spray répulsif pur essentiel antipique est le bouclier protecteur 100% naturel et efficace contre tous les insectes piqueurs. La puissance de ses huiles essentielles repousse les moustiques les plus féroces, comme le moustique tigre, jusqu'à 7 heures.
Pur essentiel antipique en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Chez Carrefour, chaque semaine, il y a des prix imbattables sur des produits frais.
Imbattables ?
Oui, les courgettes origine France sont à seulement 89 centimes le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence.
Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui.
Jusqu'à demain, chez Carrefour et Carrefour Market, les courgettes origine France sont au prix imbattable de 89 centimes le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Catégorie 1, calibre 14-21, modalité magasin ouvert dimanche sur carrefour.fr.
Europe 1, en direct du Tour de France.
Et oui, à 16h25, avant de retrouver Carl Zéro et Culture Culte, on retrouve Axel May sur la ligne d'arrivée de cette 14e épreuve du Tour de France.
Ouais, oui, les coureurs sont maintenant dans la montée du Tourmalet, montée terrible, hein, ce col du Tourmalet, une montée de 19 km avec des pourcentages qui sont assez effrayants, 7,4% de moyenne, mais des pourcentages qui sont parfois beaucoup plus importants. C'est seulement la troisième fois de l'histoire que le Tour de France arrive en haut du Tourmalet. La dernière fois, c'était Andy Schleck qui s'était, lors d'un combat épique, imposé devant le maillot jaune Alberto Contador. C'était en 2010. Troisième fois qu'on arrive donc en haut du sommet du Tourmalet, même s'il y a eu beaucoup de passages par le Tourmalet. Cette étape, donc cette 14e étape du Tour de France, je vous le disais, ils sont dans cette montée du Tourmalet, les coureurs. On a un homme seul en tête, c'est Élie Geber, le jeune breton de l'équipe Arkéa Samsic, l'équipe de Manu Hubert, qui était avec Romain Sicard, le basque, qui a réussi à lui fausser compagnie. Derrière, intercalé un poursuivant, Lilian Calmejane, et puis le peloton maillot jaune pointe à une cinquantaine de secondes. Ce peloton maillot jaune, il y a Julian Alaphilippe, il y a Enric Mas, le jeune coéquipier espagnol de Julian Alaphilippe, qui est le meilleur jeune de ce Tour de France pour l'instant, et puis distancé, Peter Sagan, Vincenzo Nibali qui était dans l'échappée matinale, Tim Wellens, le maillot à pois, Zakarin, ancien, le russe, ancien vainqueur d'étape, est aussi distancé. À noter aussi, et là c'est inquiétant pour la suite du Tour de France, Romain Bardet qui se trouve loin derrière, il a été distancé dès la première difficulté de la journée, le col du Soulor. Il reste 15 km, un peu plus de 15 km avant l'arrivée, qui sera sans doute juste après 17h, enfin aux alentours de 17h, et Julian Alaphilippe est toujours solidement installé dans son maillot jaune de leader.
On sera de toute façon au rendez-vous pour l'arrivée, pour justement faire le point avec vous, et puis débrief complet ce soir 19h, toujours avec Axel, mais ce sera le Club Tour sur Europe 1.
Europe 1.
Le Tour de France avec De Koninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. dekoninck.fr.
Europe 1.
Culture Culte, c'est votre émission de l'été, tous les samedis, tous les dimanches, 16h-18h sur Europe 1 avec Carl Zéro. Et aujourd'hui, c'est Benabar qui vous dévoile tous ses souvenirs.
Rupture de circuit. Allô, Zébra 2 à Zébra 3.
Cette générosité me laisse pantois.
Attention, vous mettez les pieds.
Moment de téléculte.
Généralement, un moment de téléculte, c'est L'île aux enfants avec Casimir ou alors Gérard Majax. Mais pour toi, c'est beaucoup plus dur. C'est ceci.
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h15 heure américaine. Les tours sont en feu, vous l'avez vu, pas de bilan pour l'instant. On parle de plusieurs morts au moins et de dizaines de blessés, puisque à ce moment de la journée, ces bureaux du quartier de Wall Street sont déjà bien sûr occupés.
Je rassure les auditeurs qui prennent en cours de route l'émission. L'invité, c'est Benabar, et Oussama Ben Laden est mort. Il n'a pas recommencé. Mais ils peuvent penser que c'est un flash spécial.
Oui.
Et
oui,
c'était
vrai,
un flash spécial. Alors évidemment, question rituelle. Tout le monde se souvient où il était. T'étais où ?
J'étais dans un premier temps dans une bagnole.
Ouais.
On travaillait sur Rage d'ailleurs à l'époque.
Ouais.
J'étais, si je me souviens bien, entre autres avec Alex Pell.
Alex Pell. Un des auteurs des Nuls.
Et on était dans les embouteillages, je me souviens, et c'était une période très étrange. J'avais mon deuxième disque qui sortait la semaine d'après. Donc moi, j'étais dans des trucs très... des petits soucis très personnels.
Ouais.
Et on a tout de suite été chez un pote voir les images. Et donc, je me souviens très bien de ce moment-là, devant la télé, à être à la fois terrifié, à avoir ce sentiment de direct, de ce qui se passe vraiment à la porte à côté.
Et tu te demandais si c'était un attentat ou si c'était un accident juste?
Bah, toutes ces questions-là, oui, on se les posait parce qu'on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. On voyait ces,
bah enfin,
ces images qui nous ont imprimées.
On n'avait pas le réflexe de l'attentat comme on peut avoir maintenant.
Oui, c'est ça. Ouais.
Bah, au début, non, on a cru que c'était un accident. Mais quand le deuxième avion est arrivé, on s'est dit quand même, il y a une chance sur 17 milliards que ça arrive. Alors, tu sais que des artistes ont essayé de recréer dans toute sa dimension sonore, l'événement du 11 septembre. Est-ce que tu connais les chansons? Parce qu'il y a toute une playlist de chansons autour du 11 septembre.
Non.
Tu connais pas? Eh bien, la plus folle, c'est celle-là, c'est Steve Reich, qui est un grand compositeur. Voici WTC-911 avec un violon. Il reproduit le son d'un téléphone en dérangement. Je rassure les auditeurs d'Europe 1. C'est rare que Steve Reich passe sur Europe 1. C'est assez arty.
Carrément, tu vas faire flipper les auditeurs.
Ouais, c'est très étrange, hein, ce truc.
C'est glaçant.
Hein. Ah ouais, ça fait très très peur.
Et c'est sa symphonie sur le 11 septembre, donc c'est normal que ça soit un peu glaçant.
Ouais,
c'est
pas
réussi.
Hein.
Ouais.
C'est bon.
C'est un des grands compositeurs d'aujourd'hui. Pour terminer en musique, après un moment aussi difficile, je vous propose ce tube culte d'Europe 1. Qui tombe à point nommé, c'est Jet Airliner par le Steve Miller Band. We'll be right back.
Jet Airliner, Steve Miller Band sur Europe 1, l'un des choix de Benabar pour évoquer son moment de télé-culte. Pour lui, c'était le 11 septembre 2001. Nous continuons de découvrir la vie et les choix de Benabar.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons replonger dans les débuts de carrière de Benabar. Quelle était sa première télé? Vous ne vous en souvenez pas? Bah, vous allez la réécouter dans un instant sur Europe 1, c'est Culture Culte jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h sur Europe 1, grâce à Carl Zéro et son invité aujourd'hui, Benabar. Vous plongez au cœur de vos souvenirs des Madeleines de Proust, des chansons, des moments de télé. Il est temps maintenant de parler de vos débuts, Benabar.
La force, elle t'appelle.
16h, 18h, Culture Culte.
Rien ne nous arrêtera.
Carl Zéro sur Europe 1.
La force qui t'appelle, Benabar, c'est Pascal Sevran, dans son costume oui. de lumière. À la chance aux chansons.
La chance aux chansons.
Exactement.
Énorme.
La France.
J'ai tout de suite commencé dans un truc très jeune.
Je comprends que tu n'aimes pas le rap. Tu as été coopté par Pascal.
Exactement.
Enfin, pas autant que son célèbre Tintin, mais tu as été coopté.
Et c'est ma première et mon unique fois où j'ai chanté en playback.
On pouvait pas le faire en direct.
Non, on pouvait pas le faire en direct. Depuis, j'ai refusé. Puis depuis, ça se fait de moins en moins, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très dur, je dis aux auditeurs, c'est très dur de chanter au playback, contrairement à ce qu'on...
Bah, si c'est raté, c'est raté.
Ça se voit.
Le leaping des lèvres, quand c'est raté, c'est horrible.
Ah ouais, ça se voit direct. C'est pour ça qu'à l'ancienne, il mettait toujours le micro le plus
près.
Avec une énorme bonnette. Donc, c'était l'époque où tu avais créé un duo, Patchol et Benabar. Ça, c'est quand même très, très curieux.
Ouais. Hein ?
Mais qui est ce Patchol ?
Patchol, c'était à l'origine le frère d'un ami de mon grand frère,
oui.
Et qui était musicien et qui était de passage à Paris et qui a squatté chez moi au début pour une semaine, et puis il est resté 6 mois.
Ouais.
Et il cherchait des textes, parce qu'il était chanteur et guitariste. Donc j'ai commencé à lui écrire des textes, et de fil en aiguille, j'ai commencé à composer. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à jouer tous les deux, mais dans le bistrot d'en bas, quoi.
Ouais.
Et les choses se sont faites comme ça. On a fait un deuxième bistrot, un petit club, un troisième, un quatrième. Et puis une manageuse s'est intéressée à nous, etc., etc.
Et ça a donné un premier album qui s'appelle La Petite Monnaie, c'est ça ?
Oui, où j'étais déjà tout seul. C'était Benabar et associé là pour le coup.
Il n'y avait plus de Patchol.
Non.
Les repas le dimanche midi, comme je sais plus qui disait, le bonheur ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie, en petite monnaie.
Ah, c'est un passage à cappella au milieu. La voix, t'as vu comme la voix a changé ?
Ouais, une voix d'enfant. On reconnaît bien quand même encore.
Donc je faisais déjà du rap, tu vois.
Il y a de l'ambiance, c'est sympa. Et alors, moi j'ai fait des recherches sur le net et j'ai retrouvé Patchol. Il chante toujours.
Vu que je suis tout petit, caché dans ma tête, je fais tout ce qu'il dit, c'est Gémini Riquet. Les premières
citations. En live, évidemment.
Ouais.
Il a un chapeau et c'est sur une place.
C'est un garçon qui a beaucoup de charisme. C'est une chanson qu'on chantait déjà ensemble, celle-là.
Mais on reconnaît quand même bien votre style, hein, que ce soit sur La Petite Monnaie ou cette chanson que vous avez écrite pour Patchol. Vous êtes resté toujours dans le même univers.
Je crois que j'ai poursuivi un peu en essayant d'évoluer, mais j'ai probablement...
Il y a une patte, maintenant on peut dire qu'il y a une patte Benabar.
Ah oui.
Comme quand on entend du Goldman, on dit ah tiens c'est du Goldman. Maintenant quand on entend une chanson, même celle de Patchol, on peut dire tiens ça c'est du Benabar.
Bah oui, je crois qu'on a tous après des petits réflexes. D'ailleurs il faut s'en méfier, parce que ce qui devient de l'expérience peut venir aussi des facilités, donc il faut se remettre en question.
Mais t'écris pour les autres ou pas ?
Très peu.
Pourquoi ?
Parce que j'ai jamais été à l'aise avec ça. Puis j'ai aussi le problème de ceux qui chantent même leurs propres chansons, c'est que si je te fais une bonne chanson, je vais avoir envie de l'apprendre.
Ah
donc
oui.
Tu vois, t'as toujours ce dilemme-là. Donc c'est assez difficile à gérer. Certains le font très bien parce qu'ils arrivent à faire la séparation entre leurs...
Non, je pensais à ton compte en banque, moi. Elle parlait de Goldman, donc je me dis...
Nous, les chanteurs, on s'en fout de l'argent, tu sais.
C'est vrai ?
Incroyable. Ça serait le chanteur, jamais.
Alors celui-là,
on n'a pas d'ego et on se fout de l'argent.
Oui, d'accord, mais j'ai téléphoné à la SACEM, le dîner, ça t'a rapporté gros.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué.
ils nous en voudront pas. Allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi.
Le dîner devenu culte maintenant, le dîner de Benabar pour Culture Culte jusqu'à 18h. Et il fait partie de la playlist culte d'Europe 1. Bravo, félicitations Benabar.
Merci. Bah, attends, c'est la moindre des choses. Donc là encore, on se rend compte à quel point tu t'inscris dans une tradition française au travers d'une chanson comme ça.
Oui, oui, je m'en rends compte. Moi aussi, c'était pas un vrai choix, mais c'est quelque chose que j'assume d'ailleurs avec plaisir. Mais cette volonté de raconter des histoires, de développer les couplets, de pas avoir la même chose au deuxième qu'au premier, enfin, de si possible d'inventer des personnages, d'avoir une chute, avoir des gags idéalement dedans, c'est une façon très classique, ouais, d'écrire des chansons. J'aime beaucoup ça, et d'ailleurs je trouve que ça revient beaucoup dans le rap que j'entends maintenant, enfin dans une certaine partie du rap grand public entre guillemets.
Orelsan, etc.
Ouais, Bigflo et Oli, tout ça. Il y a une volonté de raconter des histoires, d'inventer des personnages, de mettre en scène des situations, et moi je trouve ça délicieux. Moi j'adore ça, moi, en fait.
Délicieux, c'est le mot de Culture Culte cet été sur Europe 1.
Europe 1. Et jusqu'à 18h, vous avez bien fait de choisir Europe 1 parce que on balaye tous ensemble les souvenirs de Benabar aujourd'hui.
Ouais, et puis les autres stations, c'est nul.
De toute façon. Alors, quel est le moment de politique culte de Benabar?
Ah,
celui-là,
ça,
il va vous parler.
C'est
j'en
pas
suis
triste.
Sûr. Vous vous en souvenez. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Benabar est l'invité de Carl Zéro jusqu'à 18h sur Europe 1. Et cela fait presque une heure qu'ensemble nous balayons les souvenirs, les Madeleines de Proust de Benabar. Il était où en 1988, Benabar? Bah sûrement devant la télé. Voici son moment de politique culte.
What do you want? Me to go back to my plane.
Je vous demande de vous arrêter.
Séquence politique culte.
Alors s'il est un débat, mon cher Benabar, qui est resté dans l'histoire, c'est sans nul doute celui de l'entre-deux-tours de 1988, qui oppose deux excellents acteurs et deux excellents politiciens, François Mitterrand et Jacques Chirac. Le voici.
Moi, juste de vous dire que ce soir,
Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Et bim.
Terrible. La réplique qui tue, ça c'est ton côté scénariste, ton côté dialoguiste qui aime.
Personne n'aurait osé l'écrire, celle-là, c'est magnifique.
Le jour où ça se passe, quel effet ça te fait ?
Oui, c'est vraiment, alors c'est un peu, c'est culte pour plein de gens, j'imagine, mais moi je m'en souviens parce que j'avais 19 ans, j'étais très politisé à l'époque, ça m'intéressait beaucoup.
Tu étais plutôt à droite, plutôt à gauche ?
Plutôt à gauche. Mais je me posais déjà beaucoup de questions, mais je lisais les bouquins, enfin tu vois, le bouquin de Serge Julie avec Juppé, qui était peut-être après, mais enfin tu vois, j'étais vraiment, je regardais, je lisais même les programmes qu'on envoyait dans la boîte aux lettres. Donc, tu vois, c'était vraiment, ça allait très loin. Je lisais beaucoup de presse et tout ça, ça me passionnait. Donc c'était une période où j'étais très actif. Ça m'est vraiment passé depuis d'ailleurs.
C'est la période de Tonton ne nous lâche pas, 88.
Oui, c'est ça. Il y avait un peu ce culte un peu de Mitterrand. J'étais pas trop dedans, mais un petit peu quand même. Ouais.
T'as voté Mitterrand ou Chirac?
Mitterrand.
Mitterrand. Ouais. Et donc quand il a cloué le bec du pauvre Chirac, tu étais content devant ta télé?
Content, mais en même temps, on voyait toute la rouerie, c'est ça ?
Ah, on découvrait le côté florentin de Mitterrand.
Et ouais, de Mitterrand. Et j'avoue, comme beaucoup... à l'époque, peut-être un peu moins, parce que Chirac, il avait un côté très requin, quoi, qui passait. Maintenant, évidemment, j'ai une tendresse pour lui. Bah, la fois, il a dit qu'il voterait Hollande, etc. C'est quand même... C'est parfait, quoi.
À la question, la meilleure chanson politique culte pour toi, tu as dit Le Déserteur de Boris Vian. Alors, tu veux la version de Boris Vian ou celle de Mouloudji ?
Boris.
Boris.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.
Alors une chanson évidemment interdite d'antenne à l'époque.
Ouais.
Jugée scandaleuse puisqu'elle tombe au moment de la guerre d'Indochine.
Ouais.
On ne l'écoutera pas plus pendant la guerre d'Algérie, donc il faudra attendre assez longtemps pour la découvrir. Et aujourd'hui, la choisir comme chanson politique, est-ce que ce n'est pas un peu convenu pour toi ?
Non, pas de mon point de vue, parce que justement, on m'a souvent parlé des chansons engagées, etc. Moi, je m'en suis toujours méfié. Je pense qu'il faut dire des choses dans les chansons, pas se censurer, mais la chanson engagée, notamment ce qu'il faut penser politiquement et tout ça, ça me semble complètement déplacé. Et je la cite toujours, cette chanson-là, en disant faire une chanson engagée, d'accord, mais il faut que ce soit comme le déserteur avec de la poésie qui raconte quelque chose, pas uniquement faut voter pour un tel ou pas pour un tel ou enfoncer des portes ouvertes on voit souvent.
On revient à la tradition française, ça raconte une histoire.
Voilà, parce que le côté donneur de leçons de la chanson engagée est vraiment parfaitement ennuyeux. Et ça, cette chanson-là est justement pas donneuse de leçons, elle raconte un vrai truc. Il met en scène vraiment le gars qui écrit sa lettre au président, c'est très beau, quoi.
Alors pour conclure, je t'ai choisi un tube politico-culte issu de ma playlist personnelle.
Oula.
Ah bah oui, très important. C'est une chanson tout à fait engagée. Voici Jacques Chirac maintenant.
Ah voilà.
Dans notre pays, le pouvoir de changer de vie. Demain, si nous le voulons, tous ensemble, nous réussirons. La France a besoin d'un homme de courage, de résolution. Votons Jacques Chirac en avant, toute la nation.
hein. Ne bougez plus, vous écoutez Jacques Chirac maintenant.
Les paroles sont super, il suffit de changer Chirac par Benabar et c'est bien.
Exactement, Benabar.
Mais d'ailleurs
maintenant.
C'est un des premiers succès de Benabar, à l'époque il n'était pas connu.
Benabar. Il ne pas dû chanter comme ça parce que c'est un peu flippant, Jacques Chirac.
Ça fait un peu secte, ouais, fait ça un peu truc bizarre. Ouais.
Europe 1.
Alors Benabar maintenant et jusqu'à 18h, c'est sur Europe 1. Culture culte avec Carl Zéro, le moment politique culte de Benabar, c'était bien sûr le débat Chirac-Mitterrand en 1988. Restez avec nous, la deuxième heure commence avec le personnage culte de Benabar. C'est juste après les infos, à tout de suite sur Europe. Vous êtes bien sur Europe 1 jusqu'à 18h. C'est le début de votre deuxième heure en compagnie de Benabar qui vous dit tout. Il vous dévoile ses souvenirs, ses Madeleines de Proust, ses propres moments cultes. Et il est temps maintenant de découvrir le personnage qu'il adore.
Bonjour, c'est moi Casimir.
Personnage culte.
Ton personnage culte, Benabar, c'est Jacques Collin. C'est son vrai nom. Mais en fait, il s'appelle Vautrin et il apparaît dans plusieurs romans de la Comédie humaine d'Honoré de Balzac. Et il est parfois considéré comme une espèce de colonne vertébrale à l'ensemble de la Comédie humaine. Pourquoi ce choix ?
Ouais, Collin alias Vautrin alias Trompe-la-Mort. Mmh. C'est un personnage central de Balzac. C'est un forçat évadé, expert en déguisement, qui a été un peu inspiré de Vidocq,
ouais.
Qui a lui-même, dit-on, inspiré Jean Valjean.
Ouais.
Et qui est un voyou, un des premiers personnages homosexuels de la littérature, qui est un voyou magnifique, assassin à ses heures aussi, et qui manipule et aide entre autres Rastignac, puis Julien de Rubempré. Donc pour ceux comme moi qui aiment Balzac, c'est un personnage génial, ce personnage.
Est-ce que tu as vu le film ?
Déguise.
Tu as vu le film ?
Oui, avec Michel Simon.
Voici les actualités françaises de 1943, ouais. Le tournage du film.
Image qui semble vieille d'un siècle. La petite maison d'Auteuil où vécut Balzac reçoit la visite des comédiens qui, sur une scène parisienne, interprètent une des rares pièces écrites par l'auteur de la Comédie humaine, L'école des ménages, que Balzac composa en 1839. Évocation de ce drame bourgeois, Constant Rémy et Marie Morgan sont épiés par Claude Génias. Balzac, auteur d'hier et auteur de toujours, et de plus en plus à la mode. La scène et l'écran s'emparent de ses chefs-d'œuvre, parmi lesquels Vautrin, que Pierre Billion fait revivre à l'écran avec Michel Simon et Georges Marchal.
Voilà, ça c'était de l'info, elle dit ça.
Mais là, les journalistes racontaient des histoires, en fait.
Ah, bah, c'était hyper
histoires.
Écrit.
Ah, ouais, puis c'était cultivé, hein, comme.
Ah, bah, ça rigolait pas à l'époque. Sujet, hein. Donc, en fait, tu es fasciné par cet homme positif qui aide les jeunes, parce que le rôle de Vautrin, c'est d'aider les jeunes. Il aide notamment. Les
jeunes ambitieux.
Mais par Rubempré.
Ouais, mais par des moyens horribles, hein.
Oui,
par l'assassinat, l'escroquerie, le proxénétisme. Mais c'est un nanar, personnage et étonnant, un peu méphistophélique.
Ouais,
c'est qui fait un peu des pactes, justement.
Mitterrandien, on peut le dire.
Un petit peu. Et à la fin, il devient flic, en fait. Et après, c'est déguisé en abbé. Enfin, c'est.
Ah, bah, c'est Charles Pasqua, alors. Des personnages comme ça, t'en as rencontré des Vautrins? Dans ton business de musique.
Non, de personnages aussi magnifiques que ça, non. Mais c'est vrai, on a l'occasion de voir des gens qui ont plusieurs vies, ouais. Mais ce sont plus des gens dans l'écriture que forcément des gens qui sont à l'image ou qui chantent, ouais.
Pour terminer, en beauté, issue de ma discothèque personnelle.
Oh là là.
Ah non, Bourvil, dans le très méconnu Monsieur Balzac.
Monsieur Balzac. Je n'ai jamais lu vos romans. Monsieur Balzac, il paraît que vous avez beaucoup de talent. Le long de la Seine, faudrait que je me donne la peine d'acheter un de vos bouquins. Oh oui, faudrait bien, Monsieur Balzac. Paraît que vous racontez la vie, Monsieur Balzac, comme si vous l'aviez créé, pardi. Le long de vos pages, comme dans une belle image, on retrouve toutes les couleurs, nos joies et nos malheurs. Alors, expliquez-moi un peu. Pourquoi ça va jamais comme on veut? qu'on fait toujours ce qu'il faut pas faire, que l'on se crée tant de misère. Monsieur Balzac, là-haut du côté de Montparnasse, Monsieur Balzac, il y a votre statue sur une petite place. Vous avez l'air sévère, un peu comme mon beau-frère. Lui n'écrit pas, il est trop lourd, mais sa vie, ça ferait bien un prix Goncourt.
Ça, c'est une chanson que seul Bourvil pouvait interpréter.
Ah ouais, je la connaissais pas. C'est
tout ce que vous aimez là, c'est la chanson très écrite.
Et puis, ah oui, en plus, c'est un grand bonheur d'entendre ces chansons-là avec 5, 6 couplets, 20 couplets. De s'autoriser ça aujourd'hui, on est obligé de redresser, enfin de resserrer les textes.
Pourquoi t'écris pas pour des acteurs de maintenant ?
Pourquoi pas.
Faire chanter des acteurs, c'est toujours très intéressant parce qu'on est obligé de se glisser dans la peau de leur personnage, de ce qu'ils sont.
Ouais.
Parce que tu me parlais des chansons tout à l'heure où tu dis mais elle est trop bien, je vais la chanter moi. Mais là c'est très différent, c'est écrire pour quelqu'un parce que ça, on sent que ça a été écrit pour Bourvil.
Ouais. Et ça c'est aussi une grande tradition de cette époque-là où il y avait vraiment des auteurs, des compositeurs et des interprètes. Aujourd'hui ça existe encore, mais on est nombreux à faire tout le truc quoi. Et peut-être qu'on a, alors pour certains évidemment c'est magique, mais peut-être qu'on a perdu aussi quelque chose à faire tous et la musique et les textes et les chanter. D'ailleurs, moi, j'essaie de m'entourer de plus en plus de personnes pour retravailler les textes, pour retravailler les musiques, justement, pour pas rester qu'autour de mon nombril.
Puisqu'il est question de chansons cultes, Anissa, je pense qu'on va l'évoquer dans la partie suivante.
Europe 1. Exactement, Karl. Alors, quelle est la chanson culte de Benabar, puisqu'aujourd'hui, il a décidé de tout dévoiler aux auditeurs d'Europe 1. Eh bien, ce que je peux vous dire,
tout
c'est
comme
que
vous
son...
y allez.
Son interprète...
En plus, on est à la radio, on peut rien voir.
Son interprète, il est belge. Et on va l'écouter dans un instant, cette chanson culte. À tout de suite. Benabar vous ouvre les portes de son temple culte jusqu'à 18h sur Europe 1. Alors après le cinéma, la politique, il est temps maintenant de parler chansons avec Benabar.
16h, 18h, culture culte sur Europe 1.
Qui êtes-vous ?
Karl Zéro.
Alors ton titre culte, je vais faire Pierre Belmar là, 16 octobre 64. L'Olympia est comble pour la première de Jacques Brel, qui est alors au sommet de sa gloire. Il a pour habitude de jouer très vite sur scène les chansons qu'il vient de composer et il a inscrit Amsterdam à son programme. Mais comme il n'est pas convaincu par cette composition, il décide de la placer en troisième position au début du concert. C'est la place qu'on dit sacrifiée, mais qui permet de faire les ajustements nécessaires. C'est vrai ça ou pas ?
Ça peut être vrai, oui, je vois très bien, parce que je ne connaissais pas cette formule, mais d'avoir la deuxième ou la troisième chanson qui passe un peu toute seule. Ouais.
Plus inaperçue.
Oui.
Et pourtant là, à sa grande surprise, à la dernière note d'Amsterdam.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements.
Alors à Europe 1, on est extraordinairement fiers parce que ce jour-là, eh bien, le concert est retransmis en direct, Anissa, sur Europe numéro 1.
Et ça, c'était la classe. Tout le monde était sur Europe 1 ce soir-là pour écouter Jacques Brel à l'Olympia.
Donc Benabar, c'est la chanson culte pour toi. Pour quelle raison ?
Déjà, sans vouloir mettre à mal le concept de l'émission, j'aurais pu en donner vraiment 20 des chansons cultes. Ouais.
Ça aurait
50,
été le hit parade culte, c'était un autre programme que j'avais proposé d'ailleurs.
Parce qu'encore une fois, j'ai pas cette vision pyramidale moi des chansons, mais ça fait partie des chansons incontournables avec Brassens, Renaud, enfin encore une fois, il y en a plein pour moi, mais Jacques Brel, c'est vrai que ça vient un peu tout de suite parce que c'est tellement culte, la chanson elle-même. Le personnage de Brel, ce qu'il incarnait, son statut en tant que chanteur,
ouais.
Et puis et lui qui a fait remarquablement les trois trucs, c'est-à-dire l'écriture, la composition et puis l'interprétation.
Ça vous est déjà arrivé à vous de ne pas croire en l'une de vos chansons et que finalement elle devienne un tube énorme, parce que c'est ce qui s'est passé pour Brel, il y croit pas à Amsterdam au début.
Oui, mais moi j'étais plus lucide quand j'y croyais pas, c'est pas devenu des
tubes. Ça a pas marché.
C'était vraiment des chansons de merde, donc le problème s'est pas posé.
Amsterdam est devenu un tube mondial grâce à David Bowie, ça tu le sais,
oui.
Qui a fait une version. Mais sais-tu comment ? Il se trouve que Mort Schumann, c'est quand même perché, en 1966 a rencontré Brel et lui a demandé l'autorisation de l'adapter en anglais. Ça a donné ça.
In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps to the old willow tree.
Mort Schumann est déchaîné, il monte à Broadway une comédie musicale qui s'appelle Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris. Ça fait un triomphe. Et Mort Schumann vend la chanson à David Bowie.
And in the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a muggy hot morn by the dawn's early light.
Et puisqu'on en est à Bowie, voici la chanson que tu as décrétée comme t'évoquant l'amour adolescent. C'est une chanson de Bowie, Five Years.
Ouais.
Alors pourquoi ?
Ben, je me souviens vraiment faire des allers-retours en vélo pour aller voir une petite copine qui n'est pas devenue ma petite copine. Une copine qui,
dont tu rêvais ?
Dont j'étais.
Tu n'as pas abouti, amoureux, tu veux dire ?
Non, je n'ai pas abouti.
Allons-y, David Bowie.
Pushing through the market square, so many mothers crying. News had just come over, we had 5 years left of sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to get everything in there. And so many people, all the short, fat people, and all the nobody people, and all the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off her head, hit some tiny children. If the black hadn't the pulls her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed the stair to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in my song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there to face your race. The way that you walk, I kiss you, you're beautiful, I want you to walk, we've got 5 years.
Là on imagine Benabar sur son vélo. Hein.
Mais c'est un peu triste, c'est un peu désespéré en fait. Hein.
Ouais, bah ça dépend quand sur le chemin de l'aller, c'est très, très entraînant.
Et le retour,
donc c'est marche dans les deux sens, là,
ah,
la chanson.
C'est pas mal, c'est pas la mal. Chanson ça qui marche dans les deux sens.
Mes larmes et mon chagrin.
Espoir et râteau.
Exactement.
Europe 1.
Ah, ça fait du bien d'écouter de la musique, surtout quand elle est choisie par Benabar. Vous avez bien fait, vous aussi, de vous brancher sur Europe 1, parce que cet après-midi, on passe 2 heures avec Benabar, qui se confie, partage tous ses souvenirs. Et quand on est avec Benabar, bah, on a encore envie de parler musique. Alors, quel est son hit parade culte ? Parce qu'il en a des chansons cultes.
Bah oui, il m'a dit que t'aurais dû faire une émission hit parade culte.
Bah justement, on l'a fait juste pour
lui.
On
la lance.
Et c'est dans un instant. Yes. Benabar est l'invité de Carl Zero jusqu'à 18h sur Europe 1. C'est Culture Culte, votre émission de l'été, votre émission qui vous fait plonger dans le passé et qui vous rappelle beaucoup de souvenirs. Et tous ensemble, on va fredonner avec le hit parade culte de Benabar.
Si nous parlions à tour de rôle, à vous d'abord.
Culture Culte sur Europe 1.
Le hit parade culte de Benabar, il l'a réclamé il y a 3 minutes, l'émission est lancée. Je ne me suis pas moqué de Nathalie. Tout à l'heure, je tiens à le dire. Mais je ne me moquerai pas non plus de ton premier choix. Il s'agit de Gilbert Bécaud, que moi j'adore. Mais je trouve qu'il... Alors aujourd'hui, il n'est plus considéré comme culte. Et c'est très injuste.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve ça parfaitement injuste et surtout très ignorant de la qualité de ses chansons. Et je suis obligé de faire mon mea culpa moi-même parce que j'ai découvert il y a... même pas 10 ans, je crois, Gilbert Bécaud. À part les grands tubes.
Ah, tu étais passé
vraiment,
à côté.
Ouais, où je suis vraiment rentré dedans et avec un réel plaisir, écouter tous les albums, les phases B, le sixième titre, le septième, etc. Et j'avais fait un peu l'impasse. Donc je comprends que plein de gens l'ont peut-être fait.
Alors un extrait de En septembre.
C'est en septembre quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs.
Le hit parade de Benabar continue avec une pépite qu'il aime à faire découvrir aux autres, à ses petits camarades. Alors que personnellement, je trouvais ça assez ringard, mais en le réécoutant, je me dis, il a raison, le Benabar, c'est pas si mal.
On ne juge pas, on a dit, attends, dans cette émission, on ne juge pas, Carl.
Des goûts et des couleurs, je respecte tout à fait. Simplement, bon, moi, je trouvais que Pierre Bachelet, si tu veux, il ressemblait à une tortue
génial.
Sortant de l'eau de Javel. Enfin, j'ai toujours trouvé qu'il était bizarre. Mais en fait, c'est vrai qu'Elle est d'ailleurs est une très belle chanson.
Ah, c'est une de mes chansons préférées, cette chanson. Mes gosses la connaissent par cœur, je pense qu'ils commencent à en avoir marre d'ailleurs. Mais cette chanson est vraiment magnifique. Et Pierre Bachelet aussi, c'est quelqu'un que j'ai découvert tardivement, mais comme beaucoup. De toute façon, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on ne peut pas tout entendre, tout écouter, mais c'est bien de faire l'effort de redécouvrir ces trucs-là. Il y a des pépites en effet.
Elle a de ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ses manières de ne rien dire, qui parle au bout des souvenirs, cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher. Quand elle arrive à ma hauteur, pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi.
Et tu me disais hors antenne, Benabar, que finalement, beaucoup de gens étaient passés à côté de Pierre Bachelet en se foutant de sa gueule et qu'il ne le méritait pas.
Oui, il a été très moqué, alors que cette chanson est vraiment, si on l'écoute, une très jolie chanson, mais peut-être par les... Je ne sais pas pourquoi aussi, à un moment, ça devient, il y a quelque chose d'un peu grégaire, quelqu'un qui commence à moquer, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis Pierre Bachelet, je ne sais pas s'il en a souffert, je pense, mais ce n'est pas le seul. Hein. Il y en a beaucoup et leur image, leur mauvaise image a pris le pas sur la qualité de leur chanson, mais de façon très injuste. C'est pour ça qu'on les redécouvre quelques années plus tard, quand on n'est plus pollué par un espèce de snobisme qui fait beaucoup de dégâts encore aujourd'hui, dont j'ai un peu souffert moi-même, mais je suis plutôt privilégié.
Il était trop populaire, c'est ça.
Je pense qu'il y avait un peu un mépris de classe, oui, qui est assez constant quand même de la part d'un petit parisianisme de merde qu'on connaît, quoi.
Ouais.
Et malheureusement, qui étouffe des chansons, en fait, et de façon très injuste, et qui aussi, de l'autre côté, peuvent porter au nu des choses qu'il ne mérite pas tout à fait. Quoi.
Mais heureusement, il y a les supporters du RC Lens qui lui rendent hommage une semaine sur deux au stade. Et ça, c'est assez impressionnant.
Qu'est-ce qu'ils chantent, les supporters ?
Ils chantent les corons, mais tous ensemble. Et c'est impressionnant. Non, mais franchement, c'est à vivre une fois dans votre vie, Karl. Il faut que vous alliez au stade.
Eh bien, je pars immédiatement pour Lens. Attention, la chanson qui t'a porté chance.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour, sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été.
En quoi Cora Vauquer t'a-t-elle porté chance ?
Parce que c'est une chanson qui compte beaucoup pour moi. Parce que c'est une chanson qui a beaucoup d'avantages. C'est une chanson très simple, très naïve, qui raconte plein de choses. C'est une chanson d'un film d'ailleurs. Donc il y a plein d'images qui passent comme ça de façon un peu impressionniste. Et je crois que ça m'a permis aussi d'être décomplexé sur une forme d'écriture, de composition. C'est Delerue d'ailleurs, je crois, qui avait écrit la musique. Et on l'avait joué en rappel sur mon premier Olympia, et qui s'était très bien passé, qui avait été un virage dans ma carrière. Et c'était quelque chose de très affirmé de chanter cette chanson-là. Et ça s'était très bien passé, y compris avec le public, c'est-à-dire qu'il avait perçu tout ce côté tendre et assez profond de la chanson, mais qui n'en donne pas l'impression à la première écoute.
Alors là, on va faire une découverte. C'est, pour conclure, la chanson culte pour Benabar, qui n'a pas rencontré le succès et qui pourtant le méritait, la méritait 100 fois. Il s'agit de Kalou. Ah, yes. Les escrocs. Alors, qui est Kalou ?
Alors, c'est une chanson des escrocs qui avait fait le tube Acédic il y a quelques années maintenant.
Oh, c'est très vieux, ça, c'est quoi ? C'est fin des années 80 ?
Non, 95, 13, 14.
13, ok.
Et alors, ce sont mes potes. Hervé, d'ailleurs, qui joue du clavier, joue avec moi sur scène. Et Eric Toulis continue à être un chansonnier magnifique que je recommande à tout le monde. Eric Toulis qui fait des chansons super, des textes très drôles. Et là, Kalou, c'est l'histoire d'un mec qui était au Club Med, un géo, et qui revient chez lui à 50 balais et qui doit se réhabituer à la vie en banlieue parisienne dans l'appartement de sa mère.
Et pour toi, c'était un pur tube.
Je trouve le pitch génial, ouais. Tellement compliqué, tellement tordu.
Qu'il m'enchante.
On écoute.
h 18h, Karl Zéro sur Europe 1.
J'étais chômeur professionnel, tonton Marco, qui était géo au club, m'a dit viens aux Seychelles, j't'ai trouvé du boulot. Je devais faire qu'une saison, j'en ai fait 34. Ça fait 8 jours que je suis rentré, de chemise à fleurs en boule au fond de mon sac. Me v'là de retour chez ma mère, de pièces au Plessis Robinson, où sont les orgies de fruits de mer, les filles qui me disaient jamais non. Ma vie en bleu turquoise, les palmiers, les lagons, je me fais cuire des pâtes aux gruyères. C'est quoi déjà le temps de cuisson? C'est quoi déjà mon vrai prénom? Là-bas tout le monde m'appelait. Pleine de poussière, tiens mon poster d'ACDC, c'est décollé, il est par terre. J'ai accroché comme des trophées les badges de tous les villages au pied du lit superposé. Ma mère me dit c'est fini les voyages. Jean-Luc, il faut tourner la page. Ce soir c'est ton anniversaire, on va fêter tes 57. J'ai un cadeau qui va te plaire, un pull et des chaussettes. J'ai invité la fille Berthier, elle est contente de te revoir. Elle est toujours célibataire, elle vient dîner ce soir. La fille Berthier, moi je m'en fous, là-bas tout le monde m'appelait. Kalou, Kalou, tu sage, vous suis essentiel. Caillou, qu'est-ce que tu fous là-bas? Au froid, t'es haut de scène, t'es dingue. Quelle où je te laisse, ce soir tournoi à topless. Beach volley, plage des murennes.
Calou sur Europe 1, grâce à Benabar. Vous connaissez maintenant Les Escrocs, c'est la chanson culte de Benabar, mais pas assez connue. Bah justement, Les Escrocs, ils tournent partout dans toute la France, alors ils vont passer peut-être près de chez vous, et vous pouvez découvrir tout cela sur internet, lesescrocs.fr. Et Eric Toulis, qui joue aussi sur texte, scène.
Ouais. Europe 1.
Jusqu'à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et son invité Benabar qui vous dévoile tout ce qui est culte pour lui. 2 heures de confession de souvenirs de Madeleine de Proust. On va encore parler musique avec Benabar pour découvrir dans un instant la reprise culte. A tout de suite. Culture Culte, c'est votre émission tous les étés sur Europe 1 avec...
Quel bonheur !
Carl Zéro, évidemment, tous les samedis, tous les dimanches, 16h, 18h. Et aujourd'hui, c'est Benabar qui se confie, on va encore parler musique.
16h, 18h, Culture Culte sur Europe 1.
Qui êtes-vous ?
Carl Zéro.
Ta reprise culte, c'est dans un album hommage à Georges Brassens, Les Oiseaux de Passage, et tu reprends Embrasse-les tous.
Tu n'es pas de celles qui meurent où elles s'attachent. Tu frottes ta joue à toutes les moustaches. Faut se lever de bon matin pour voir un ingénu qui ne t'est pas connu. Entrez libre à n'importe qui dans ta ronde. Cœur d'artichaut, tu donnes une feuille à tout le monde. Jamais de mémoire d'homme moulin n'avait été autant fréquenté. De Pierre à Paul, en passant par Jules et Félicien. Embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Passe-les tous par tes armes, passe-les tous par tes charmes, jusqu'à ce que l'un de les bras en croix tourne de l'œil dans tes bras. Des grands optimes en allant jusqu'aux Lilliputiens, embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien, jusqu'à ce qu'amour s'ensuive. Qu'à son cœur une plaie vive, le plus touché d'entre nous demande grâce à genoux.
Pourquoi t'as choisi celle-là de Brassens?
Parce que je voulais pas prendre une, pas faire un des grands tubes de Brassens pour prendre une chanson un peu plus méconnue, si tant est qu'il y en ait de Brassens. Et puis cette chanson qui est très complexe, qui a des même musicalement, c'est pour le coup c'est pas une chanson de c'est pas un single radio, tu vois. C'est
non, mais surtout en plus tu le fais avec une fanfare, donc tu compliques la vie un peu.
Multiplie les handicaps. Alors même si je pense que c'est complètement vain la plupart du temps de faire une reprise, pour nous en tout cas qui la faisons, c'est toujours passionnant parce que ça permet de rentrer dans le moteur, vraiment, on voit les articulations,
on bricole.
Et c'est pas du tout pareil quand tu la travailles que quand tu la chantes ou quand tu l'entends, c'est vraiment, tu vois comment c'est foutu de l'intérieur, et ça c'est très passionnant de porter 3 minutes le costume, de la moustache de Brassens.
C'est quoi l'apport de Brassens, tu penses ?
La qualité du texte, d'une part, cette fantaisie, cette recherche, cette précision aussi dans la poésie, et puis la liberté des thèmes abordés, qui a quand même ouvert plein de portes à plein de gens, alors des générations avant la mienne, mais ça a changé beaucoup de monde, de pouvoir justement pas faire que des chansons d'amour et de parler de plein de sujets différents, et puis la qualité, ce qu'on dit moins, mais de ces compositions aussi qui sont magnifiques et beaucoup plus complexes qu'on ne le dit à chaque fois. On a l'impression que c'est 3 accords, pom 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 pom, c'est pas du tout ça, hein. Et ça, quand tu commences à chanter le titre ou quand tu dois le rejouer en piano, tu t'aperçois que c'est vachement plus compliqué que ça.
Brassens s'explique pourquoi il chante.
J'ai fait une chanson pour chanter. Chanter un peu comme un oiseau, encore que je chante moins bien qu'un oiseau. Pour chanter, ou pour danser avec des mots, si vous voulez. C'est ma façon de danser, moi qui ne sais pas danser, qui n'aime pas tellement la danse. Je fais danser les mots, ça me fait vivre. C'est un peu, il faut bien le dire, une espèce de musique.
Tu as cité tout à l'heure parmi les grands Renaud.
Oui.
Eh bien, Renaud a repris lui aussi du Brassens. Voici Les Amoureux des Bancs Publics.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant, dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses malappris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues, sur un de ces fameux bancs, qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Renaud sur Europe 1, les amoureux des bancs publics, la reprise bien sûr de la célèbre chanson de Georges Brassens pour cette reprise culte signée Benabar.
Europe 1.
Benabar se confie jusqu'à 18h pendant encore quelques minutes aux côtés de Carl Zéro. Vous apprenez à connaître Benabar. Savez-vous quels étaient ses rêves d'enfant?
Ah
vous
non.
Allez les découvrir dans un instant sur Europe 1. Carl Zéro reçoit Benabar jusqu'à 18h sur Europe 1. Culture Culte, c'est votre émission de l'été tous les samedis, tous les dimanches de 16h à 18h. Nous avons découvert la reprise culte de Benabar, la chanson culte, son moment politique, son moment de télé préféré. Et bien maintenant, nous allons découvrir sa vie un peu plus intime avec ses rêves d'enfant.
La force, elle t'appelle.
16h, 18h, Culture Culte.
Rien ne nous arrêtera.
Carl Zéro sur Europe 1.
Benabar, la force t'a appelé le 16 juin 69 à Thiès, dans le Val-de-Marne. Alors, tu grandis à Saint-Try-sur-Seine, dans l'Essonne, dans la banlieue parisienne. Ta mère est italienne et libraire.
Ouais.
Et ton père, il travaille comme régisseur pour le cinéma, sur une cinquantaine de films.
Ouais.
Quel genre de parents c'est ?
Des parents déjà aimants, ce qui est d'importance. On est trois frères. Mon père partait assez souvent, mais oui. revenait aussi souvent, donc il était quand même là. Et puis ma mère, maman protectrice, qui un peu des fois dépassée par trois mecs à la maison, trois enfants qui se
devait être le bordel, oui.
Donc c'était un joli bordel, ouais. Et puis une maison où il y avait beaucoup de livres, beaucoup de ce goût-là, ouais, pour la lecture. Et voilà, une enfance très heureuse. Ouais.
Mais ça te prédestine en réalité le côté livre à la maison et le côté papa qui est dans le cinéma.
Vous êtes dans les mots, hein.
Un petit peu. Oui, je m'en rends compte avec le recul, même si mon père était technicien, donc il y avait pas le côté artistique du truc.
Oui, mais il y a les récits de plateau, etc.
Ouais, les récits de plateau, et puis peut-être le fait de savoir qu'on peut vivre aussi comme ça, on est pas obligé d'avoir un métier forcément fixe, peut-être que on peut avoir un faux métier
nous.
Et puis en être heureux.
Oui, c'est vrai. Alors à 8 ans, tout d'un coup, tu t'inities à la trompette parce que cela symbolise les clowns et le cirque.
Oui.
C'est à la fois par goût musical et aussi parce que c'est ta passion.
Ouais, la trompette, mais depuis que je suis tout gamin, depuis que j'ai 4-5 ans, je voulais faire de la trompette. Alors, il me manquait les deux dents de devant, donc je pouvais pas en faire tout de suite. Mais dès que j'ai pu, j'ai attaqué la trompette. C'était une volonté réelle de gamin qui alors là, c'est frais.
Mais lié au cirque, on est d'accord.
C'est lié. Et puis, c'était lié au cirque parce que j'adorais aussi les clowns, donc j'ai fait le lien. Mais après, c'est toujours pareil. Là, si on choisit la trompette, c'est pas, s'il y a quand même des raisons assez psychanalytiques, assez évidentes, quoi. C'est quand même un instrument qui brille, qui fait beaucoup de bruit.
Un clown qui brillait, qui faisait beaucoup de bruit, Zavatta.
Pensez-vous, Achille Zavatta, que l'évolution du spectateur, qui interdit maintenant les effets trop grossiers, permettrait d'utiliser une technique du rire qui aurait complètement échoué il y a quelques années?
Ah, naturellement. Et j'en suis très heureux, d'ailleurs. Parce que ça m'a permis de jouer des sketchs beaucoup plus modernes et beaucoup plus fins, et de me retirer de cette technique pure, traditionnelle, qui avait les clowns dans le temps. Par exemple, il y a une vingtaine d'années, j'ai essayé un sketch. Eh bien, j'ai pris le plus beau beat de ma vie, avec une chose qui me faisait rire à moi, même aux répétitions. Je trouvais tellement ça drôle. Seulement, qu'est-ce que vous voulez, j'étais un précurseur de ce genre de comique, surtout pour les clowns, et ça n'a pas marché du tout. Et je l'ai essayé 20 ans après, dans le même pays. Seulement, depuis, il y a eu la télévision, ils avaient la radio, tout ça. Ça a tellement évolué, l'esprit des spectateurs, et le même sketch a apporté, j'ai eu un grand succès.
C'est des voix comme on n'entend plus jamais.
Ah ouais, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Hein.
Ben bien sûr.
Sketch 20 ans après, sur le timing de nos boulots. Quoi.
Ben je pense qu'il doit y avoir dans tes tiroirs des chansons qui attendent leur heure.
C'est pour ça que c'est toujours un peu magique, un succès. C'est-à-dire qu'il y a la qualité de la chanson, mais il y a aussi le moment où elle arrive, l'envie des gens, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'on est en hiver ou au printemps. Tout ça, mais bon, c'est impossible à déterminer avant, sinon on le ferait tous. Mais je suis convaincu qu'il y a tous ces signaux-là qui sont envoyés, même s'ils sont imperceptibles.
Alors j'ai cherché longuement un morceau où la trompette est en avant dans ton œuvre et j'ai trouvé ceci, la berceuse,
ah,
et un final à la trompette.
Ah,
voilà plus d'une heure que je te tiens dans les bras, voilà quelques jours que je suis tout à toi. Il est très tard et tu dors pas, je t'ai fait une berceuse, la voilà. Demain, le jour sera là, et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux, et dans tes rêves, toutes les fées viendront te réveiller.
Fais dodo.
Pourquoi tu dors pas? Demain il faut que je me lève tôt, j'ai un rendez-vous hyper important. Si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué et dors maintenant. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. C'était confort, j'ai bien récupéré. Maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire chier. Demain, le jour sera là, et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux, et dans tes rêves, toutes les fées. Dors, dors, dors.
Bordel.
Pourquoi tu dors pas? Ce que tu regardes en riant, que tu prends pour des parachutes, ce sont mes paupières, mon enfant. C'est dur d'être un adulte. Allez, on joue franc jeu, on met cartes sur table. Si tu t'endors, je t'achète un portable, un troupeau de poneys, un bâton dynamite. J'ajoute un kangourou si tu t'endors tout de suite. Paupières sont lourdes, tu es en mon pouvoir. Une sensation de chaleur engourdit ton corps. Tu es bien, tu n'entends plus que ma voix. Je compte jusqu'à trois et tu vas t'endormir. Pour tu veux pas dormir.
Pourquoi ?
Tu dors pas. Je te donnerai bien un somnifère. Mais y'en a plus, demande à ta mère. T'es insomniaque ou quoi ? Puisque tu me laisses pas le choix.
Voici le temps des menaces.
Si tu dors pas, je te place.
Dors, dors, dors.
Mais on dirait que ça marche. Tu fermes les yeux, tu es si sage. C'est merveilleux, tu dors comme un ange. Tu as de la chance, moi aussi j'ai sommeil. Mais c'est le matin, il faut que je m'habille. Je me suis énervé, mon amour, je le regrette. Pour me faire pardonner, je vais te jouer un peu de trompette.
L'instrument, bien sûr, de Benabar, c'est de cet instrument dont il a voulu nous parler aujourd'hui pour évoquer son enfance. Jouer dans la berceuse, une chanson qui, si vous êtes jeune parent, vous rappellera forcément des bons ou des moins bons souvenirs. Benabar, la berceuse sur Europe 1. Benabar qui est votre invité pendant encore quelques minutes, Carl, jusqu'à 18h.
Mais oui,
Europe 1.
Culture Culte, c'est votre émission de l'été, 2 heures de confession de souvenirs de Madeleine de Proust. On va encore parler musique, mais cette fois-ci avec une chanson que Benabar aurait adoré écrire. Quelle est la chanson que Benabar aurait adoré chanter ou écrire ? Sa chanson culte, vous allez le découvrir maintenant sur Europe 1, et j'en suis sûre, vous aussi, vous l'aimez, ce morceau.
Lance-toi, tu pues, et marche à l'ombre.
Chanson culte.
Alors, la chanson culte de notre ami Benabar, ça aurait pu être le blues du dentiste qu'il a chanté avec Salvador.
Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Oh, qui est dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça.
Salvador, on reconnaît ce qui rit entre chaque phrase.
Ouais.
Mais ta chanson culte, ça n'est pas une chanson de Salvador. C'est une chanson d'un ami commun qui a disparu, Michel Delpech. Michel, tu lui dois beaucoup.
Oui, je dois beaucoup professionnellement, entre guillemets, parce qu'il m'a beaucoup accompagné, beaucoup soutenu. Et humainement, parce que c'était un ami très proche. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie et qui compte encore d'ailleurs beaucoup.
Michel, avec qui tu as souvent chanté sur scène, par exemple, quand j'étais chanteur.
J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais la chaise longue et j'ai mes récites. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur.
J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête
j'étais chanteur.
Mais ça n'est pas « Quand j'étais chanteur », ta chanson culte, c'est « Marianne ». Et c'est presque une chanson politique.
Ouais, c'est une chanson politique, mais justement politique, pas bêtement engagée, qui donne des leçons. C'est une chanson qui parle un peu de la vie, y compris de la politique. Et puis qui a surtout une... J'adore la mélodie, enfin j'adore cette chanson, parce qu'il y a une mélodie très complexe, très savante. Et puis qui a un petit côté années 70, délicieux. Alors après, c'est toujours difficile de choisir une chanson de Michel, parce que j'aurais pu parler de Laurette ou de plein de chansons. Mais celle-là, elle a un charme particulier, et notamment sur la compo, qui est très, très singulière.
Mais ça n'est pas « Quand j'étais chanteur » que tu as choisi aujourd'hui de nous interpréter a cappella, c'est chez Laurette.
À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et d'un seul coup, nos leçons, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous. Laurette, c'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés, elle payait pour nous. Laurette, et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même, en un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette, on y retournera pour ne pas l'oublier. Laurette, ce sera bien, ce sera chouette, et l'on reparlera des histoires du passé chez Laurette.
Merci Bénimbard, tu viens de nous donner à Anissa et moi le frisson. Et on en profite pour embrasser Geneviève Delpech.
Oui, Geneviève que j'embrasse.
Qui doit nous écouter aujourd'hui. Merci d'avoir participé à Culture Culte aujourd'hui sur Europe 1.
Merci beaucoup à vous.
Merci Anissa,
on a découvert toute
ta personnalité, enfin tout ce que tu voulais bien nous faire découvrir, parce que tu es un garçon secret, nous n'en doutons pas. Et on se retrouve demain avec un nouvel invité, mais Anissa voulait parler de la tournée de Bénimbard.
Et oui, il est en tournée tout cet été, Bénimbard, vous pouvez reprendre ses plus grands morceaux, découvrir ses chansons. Et maintenant, vous pourrez dire que vous le connaissez beaucoup mieux grâce à Culture Culte. Rendez-vous sur Internet pour découvrir toutes les dates de tournée. Il est partout en France jusqu'à la fin de l'été.
Il est inépuisable, ce Bénimbard. Merci et à bientôt.
À bientôt, salut.
Anissa, il est temps pour moi de vous poser la question. Qui va nous faire l'honneur de sa visite demain dimanche dans Culture Culte ?
Eh bien demain, Karl, dimanche à 16h, une émission Culture Culte très musicale puisque nous recevrons San Severino. À demain. Europe 1.